Bienvenue sur le message de la semaine de Home Lausanne. On espère que celui-ci t'encouragera et t'équipera. Pour plus d'informations sur notre église, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglisehome.com.
Et ce soir, comme Raph l'a dit, on va vivre la célébration un peu différemment, mais il y aura quand même du coup un temps maintenant de message où je vais partager un petit peu sur un sujet. Qui sait dans quelle série on est ? Alors dites-le avec votre bouche. La nouvelle table, trop bien. Ah non mais je vous aime trop. C'est génial, vous parlez. Trop bien, oui, on est dans une nouvelle table. Moi, j'ai l'honneur de clôturer cette série quand on a commencé à réfléchir un petit peu à cette série avec Raph. On avait vraiment à cœur de parler des tables. Et la raison pourquoi, c'est parce que les tables auxquelles on est invité en tant que disciples vont vraiment venir marquer notre quotidien. Si c'est votre première fois ce soir et vous m'entendez parler de table et vous êtes là, je vois pas en quoi un truc en bois change ma vie. Et puis, c'est ce qu'on va découvrir un peu ce soir, pourquoi. Mais du coup, je veux que vous imaginiez que vous êtes invité chez moi et on est assis autour d'une table que j'ai fabriquée avec amour pour une raison bien spécifique, d'accord ? C'est une table bien spécifique. C'est pas une table qui est comme les autres, elle est en marbre, elle est pas en bois et je l'ai faite pour une seule chose, c'est concocter des caramels. Je sais pas si vous avez déjà fait ça, mon papa était pâtissier, confiseur, chocolatier, glacier, je dois toujours dire les quatre. Et puis, du coup, il nous a appris à faire des caramels. Et puis, pour faire des caramels, pour ceux qui savent, une fois que vous avez bien mélangé, en général, on utilise un bol en cuivre pour mélanger le sucre, machin, et puis l'eau, blablabla. Une fois que c'est la bonne consistance, on va en fait dérouler ça sur une table en marbre. Donc, vous êtes chez moi, il y a une table en marbre qui est là. Génial. Elle est assez grande, elle est là pour accueillir à peu près 10 personnes. Elle est ronde parce que j'aime l'idée d'avoir des personnes qui peuvent se voir les uns les autres et passer un temps ensemble. Donc, en gros, ma table à laquelle vous êtes invité, elle a principalement deux buts. Un, que vous appreniez à faire des caramels. Deux, c'est de passer du temps ensemble. Et évidemment, c'est un exemple que j'ai inventé. Je n'ai pas une table de la sorte chez moi, pas encore en tout cas. Mais je vous donne cette image pour qu'on puisse en fait saisir la puissance de la notion de la table dans la Bible. Les tables qui sont décrites dans la Bible vont en fait nous révéler comme des objectifs, des buts, des désirs dans le cœur de Dieu. Et puis en fait, ça va du coup venir révéler aussi comment est-ce que nous, on est appelé à vivre alors qu'on se sait invité autour de ces tables-là. Et ça va venir informer et transformer aussi notre façon de vivre notre vie de disciple. Et voilà pourquoi, durant cette série, en fait, on avait à cœur de découvrir les différentes facettes de ces tables qu'on retrouve dans la Bible. Et en fait, finalement, on se pose souvent la question, qu'est-ce qui caractérise ces tables et comment est-ce que le fait qu'on est invité autour de ces tables-là, en tant que chrétien et chrétienne, ça vient marquer notre vie de disciple. La première semaine, c'est Sabine qui nous a parlé de la table communautaire. Donc, il y a deux, trois, enfin bref, vous comprenez, la première semaine. La semaine dernière, c'est Raph qui nous a parlé de la table de la Sainte Cène. Et dans son message, si vous ne les avez pas entendus d'ailleurs, ils sont sur les podcasts, si jamais vous voulez aller les réécouter. Et dans son message, Raph, il nous a lu un passage qu'on va relire ce soir pour découvrir une autre table dont la Bible nous parle. Donc, je vais vous lire le Luc 22, les versets 14 à 18. Si vous avez vos Bibles ou vos téléphones avec vous, vous pouvez suivre là-dessus. Ou alors, ça va s'afficher ici en haut. Vous êtes prêts ? Ça va ? Ah, tout à coup, vous ne parlez plus. J'imagine, c'est parce que vous êtes concentrés. OK, ou que vous mangez des bonbons. Donc, Luc 22, 14 à 18. Quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les 12 apôtres. Il, c'est Jésus. Il leur dit... J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Puis il prit une coupe, remercia Dieu et dit, prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Vous voyez où j'ai mis l'accent dans ces versets ou pas ? J'ai essayé avec mon intonation. On va voir. Donc, comme j'ai dit juste avant, on avait en fait lu ce texte la semaine dernière, alors que Raph nous parlait de, en fait, exactement ce qui se passe là, la Sainte Cène. Donc, c'est le moment où Jésus, juste avant de mourir, il rompt le pain et puis il donne aussi aux disciples du vin en disant « Buvez ça en mon souvenir ». Et puis, Raph nous a parlé de l'importance de cet acte qui, encore aujourd'hui, fait du sens pour nous. Et je vous invite encore une fois à aller écouter son message si vous ne l'avez pas entendu. Mais le premier point de sa prédication à Raph relevait le fait que la table de la Sainte Cène était comme un mémorial de ce que Jésus a fait pour nous. Et en fait, se retrouver autour de cette table nous permet en fait de se souvenir de ce que Dieu a fait pour nous à la croix et nous rappelle aussi la nouvelle alliance à laquelle il nous invite. Mais ce soir, du coup, j'aimerais vous proposer que la table de la Sainte Cène qu'on vient de lire là, le passage qu'on vient de lire, est aussi l'annonce en fait d'une table à venir. Il n'y a pas que la table de la Sainte Cène qui est imagée ici. Et je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce que j'en viens à vous dire qu'il y a une autre table qui est annoncée dans ce passage. Et pour saisir ça, il faut qu'on passe un peu de temps sur ce passage pour comprendre notamment une petite phrase que Jésus répète deux fois dans ce passage. Je vous les recite. Au verset 16, il dit « Je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et au verset 18, « Car je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » C'est souvent des passages qu'on n'en parle pas trop. Hein. Je ne sais pas si vous êtes un peu du monde de l'Église et vous êtes là, ces passages-là de la Sainte Cène... Je les lis, mais est-ce que je les lis? Est-ce que je comprends vraiment ce que ça veut dire? Et au final, pourquoi est-ce que Jésus parle de ne plus boire jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu? De quoi est-ce qu'il parle réellement? Et pour saisir ça, qui aime l'histoire ici? Oh, ouf, heureusement, il y a au moins 5 personnes. Super, parce qu'on va avoir un petit point histoire. On va se plonger pendant un petit instant dans la culture juive biblique. Donc, c'est la culture dans laquelle Jésus se trouvait à l'époque et c'est la culture environnante lors de l'écriture aussi de ce passage. Donc, à l'époque de Jésus, en fait, il était coutume de boire une coupe de vin pour accepter la demande de mariage et d'annoncer la période de fiançailles. Donc, je vous la fais courte. Mais le fiancé, celui qui voulait se fiancer à la future fiancée, allait à la maison du père en disant « Est-ce que je peux prendre votre fille en tant que femme, blablabla. » Et à ce moment-là, en fait, le père, pour symboliser le fait qu'il acceptait cette demande-là et qu'il y aurait une période de fiançailles, il allait boire de la coupe. Et cet acte-là, il n'y a pas que la coupe, mais je vous la fais vraiment courte. En fait, ça annonçait la période des fiançailles. Et le fiancé, il prononçait une phrase spéciale qui marquait le début des fiançailles. Et puis, il faut comprendre que dans la culture juive, les fiançailles, c'est un acte légal du mariage. C'est le premier acte légal du mariage, c'est-à-dire que si le fiancé voulait se séparer de sa fiancée, c'était contrat de divorce. Donc, il faut comprendre qu'il y a quand même une alliance qui se faisait, un engagement qui se faisait de manière légale à ce moment-là, lors de ce que nous, on connaît un peu comme sous le nom de fiançailles. Et puis, du coup, la phrase que le fiancé prononçait, c'était la chose suivante. Il disait à la fiancée, « Tu es sanctifiée à moi selon la loi de Moïse et des Juifs. Tu es sanctifiée à moi. » En fait, à ce moment-là, c'était le commencement d'une période de préparation qui durait en général un an. Ça pouvait durer plusieurs années ou alors plusieurs mois. C'était un peu selon, mais ils disent en général, ça durait à peu près un an. Et en fait, c'était une année au cours de laquelle le fiancé préparait le futur logement pour sa fiancée. Et puis la fiancée, elle se préparait elle-même. D'accord ? Donc, encore là, je vous dépasse beaucoup, beaucoup de choses fascinantes. Mais en gros, on va dire ça comme ça, c'est une année de préparation. Et puis, ce qui est drôle, moi je trouve ça drôle, je ne sais pas si c'était drôle pour elle à l'époque, mais la fiancée ne savait pas quand est-ce que le fiancé arrivait. Et du coup, fallait tout le temps qu'elle soit prête. Et du coup, elle avait toujours de l'huile qui devait être prête. Elle avait toujours, elle, besoin d'être prête. Et puis, en fait, le fiancé arrivait vraiment. C'était pas genre, bonjour, je viens vous prendre, allons chez moi. C'est vraiment, pom, pom, pom. Genre, ils avaient vraiment mis trompette, machin. Ils avaient tous les garçons d'honneur qui venaient, qui débarquaient de la rue. Ils faisaient des sons de trompette pour que la fiancée sache, Si jamais il y a le fiancé qui arrive, enfin bref, tout un schmilblick, moi je trouve ça drôle. Et puis je me dis, aujourd'hui s'il y a ça, franchement, je me demande ce que les voisins ils disent. Bref, et puis du coup, il y avait ce moment-là que le fiancé allait chercher la fiancée, et puis lors du jour du mariage, il y avait de nouveau cette coupe de vin. Et il y avait de nouveau le fait qu'ils buvaient de cette coupe de vin pour marquer, un peu comme la consommation de leur alliance, ils marquaient en fait l'accomplissement de la promesse des fiançailles. Vous me suivez jusqu'à là ? Ok, ça veut dire qu'il y a à deux moments le fait que les deux personnes qui s'étaient engagées l'un vers l'autre buvaient de cette coupe de vin, c'était lors des fiançailles et lors de l'accomplissement de cette promesse qui est le jour de mariage. Et c'est à ce moment-là, je pense qu'on connaît tous cette tradition, c'est le Mazel Tov. Vous connaissez ? J'imagine vos rires font que vous connaissez. Bref, donc il y avait ça, c'était ils cassent en fait le verre là où ils ont la coupe de là où ils ont bu. Et en fait, quand je vous raconte tout ça, pas juste pour que vous ayez plus d'infos sur la tradition juive à l'époque, bien que ça soit fascinant, c'est pour qu'on comprenne que en fait, quand Jésus il est en train de donner la coupe aux disciples, en fait, il faut comprendre que eux, c'est clair et net, il y a une allusion aux fiançailles. Il y a, en fait, c'est aucun doute. Et ça faisait profondément écho au rituel des fiançailles. Et puis Jésus qui boit de la coupe de vin et qui la donne aux disciples. Et je sais que là, ça peut paraître un peu bizarre, mais en fait, il est en train de tendre une invitation aux disciples à accepter en quelque sorte sa demande de fiançailles. Et en d'autres termes, la question qu'il pose, c'est en gros, choisis-tu et acceptes-tu de t'engager envers moi et de m'appartenir en vue du mariage comme moi je m'engage envers toi ? Et notez bien ici qu'il parle d'un mariage céleste. Je ne suis pas en train de dire le mariage qu'on connaît ici, terrestre, c'est ce qu'on vit avec Jésus, parce qu'il y a des choses qui n'iraient pas. Mais et je sais que ça peut des fois nous perturber un petit peu cette allusion au mariage. Mais j'aimerais juste rappeler ici qu'en fait, Dieu, dans sa bonté, il choisit de se révéler à nous d'une façon qu'on puisse comprendre. D'accord ? Et le mariage, pour nous, c'est quelque chose qu'on connaît, c'est quelque chose qui est explicable, c'est quelque chose qu'on peut, en anglais, on dit « wrap my head around », c'est quelque chose que je me dis « ok, je peux à peu près genre, comprendre ce qui est en train de se passer ». Et Dieu, dans sa bonté, il pourrait, parce que la réalité de Dieu, c'est qu'il est inexplicable. Mais dans sa bonté, il choisit de se révéler dans ce qui est explicable pour nous. Et c'est là où je vais en venir quand je vais parler tout au long de cette prédication de mariage, de fiançailles, etc. C'est de comprendre que c'est une image de ce qui est à venir, d'accord ? C'est pas mot pour mot tout ce qu'on vit aujourd'hui dans un mariage, on va le vivre avec Christ, pas du tout. Mais il y a une notion d'alliance, il y a une notion d'union qui est d'ailleurs peut-être la plus forte image qu'on a aujourd'hui de l'union et de l'alliance qui est le mariage. C'est ça que Jésus il est en train de dire, en fait, il y a une allusion vers ça. Donc, ce qui est important qu'on comprenne, c'est que cette image, qui est celle du mariage, elle symbolise en fait l'accomplissement d'une alliance promise. Elle symbolise une union profonde. Et est-ce que vous savez ce qui est le plus fascinant dans toute cette histoire, ce qui est le plus fou ? Sûrement pas, parce que je vais vous le dire maintenant. C'est que en fait, dans la culture juive, le fiancé devait, et puis dans d'autres cultures, ça existe encore aujourd'hui, hein, mais le fiancé devait payer un prix pour obtenir sa fiancée. Alors en général, c'était soit de l'argent ou des cadeaux, mais il y avait un prix à payer. En anglais, on dit ça « the bride price ». Et puis en fait, c'était son sacrifice pour démontrer son engagement envers sa fiancée. Et Jésus, à la croix, il a payé le prix ultime pour s'engager envers nous. Il a offert le sacrifice ultime pour s'engager envers nous, et ça, c'est la mort à la croix. C'est ça son sacrifice. C'est ça son engagement envers nous. Donc, pour résumer, cette table de la Sainte Cène, elle nous révèle deux choses. Premièrement, Jésus s'engage envers nous comme un fiancé envers sa fiancée, payant le sacrifice ultime à la croix. En d'autres termes, en fait, on devient sa promise en tant qu'Église. Si je reprends les mots que le fiancé disait à sa fiancée, voilà ce que Jésus nous dit quand on lui dit oui, quand on dit oui à son invitation. Il dit « Tu es sanctifié à moi selon mon sacrifice, selon la croix ». Voilà ce qui est en train de se passer dans le moment où on dit oui à ce que Jésus nous offre en fait. Quand il nous donne cette coupe de vin, quand il nous donne ce pain et qu'on dit oui à prendre part de ça, il est en train de dire « tu es sanctifié à moi selon mon sacrifice. Et deuxièmement, dans ce passage-là, parce que Jésus tout de même dit qu'il ne boira pas de la coupe jusqu'à ce que le royaume de Dieu revienne, donc ça veut dire que le moment, si on dit comme ça, le moment de la Sainte Cène, c'était les fiançailles, on boit de la coupe, ça veut dire qu'en fait, ça annonce une autre table, c'est là la deuxième table, qui est annoncée lors du mariage. Il y a une table qui va arriver, une table des noces, d'accord ? On retient ce terme parce qu'on va y revenir. Mais la réalité, du coup, quand Jésus dit ça lors de la Sainte Cène, c'est qu'il est en train d'annoncer qu'il reviendra pour célébrer une union. Vous arrivez à me suivre jusqu'à là ? Ça va ? C'est assez clair ? En fait, il reviendra pour célébrer cette union promise. Et on se retrouvera, du coup, autour d'une nouvelle table où on y boira à nouveau la coupe qu'on a bue lors des fiançailles, lors du moment qu'on a dit oui, mais dans un autre contexte. Et puis on va y revenir juste dans un moment. En fait, il y a un moment où le royaume de Dieu viendra et un mariage aura lieu. Il y a une table des noces qui va prendre forme. Autrement dit, il y a un mariage qui se prépare dans le royaume de Dieu où une table nous sera dressée. Du coup, qu'est-ce que ça signifie pour toi et moi aujourd'hui ? C'est ça un peu la question. Hein. Qu'est-ce que ça change finalement dans nos vies de saisir cette réalité du mariage qui se prépare dans le royaume de Dieu ? Est-ce que, en fait, je suis concernée ? Et c'est sur ça un peu qu'on va se pencher pour le restant du temps qu'on a ensemble, donc dans les 3 prochaines heures. Pour ceux et celles qui prennent des notes, vous êtes toujours là. Je dois lancer des pics parce que vous êtes tellement silencieux que je me dis, il faut quand même que je voie si vous êtes là. Quoi. Mon premier point, c'était des fiançailles à la table des noces. Et là, on va rentrer dans mon deuxième point, que je vous dirai le titre après. La Bible, du coup, nous présente souvent, si vous lisez la Bible dans son entièreté, Jésus comme l'époux, et puis l'Église, donc vous et moi qui choisissons de suivre Jésus, comme l'épouse promise à Christ. Donc en fait, ce n'est pas une image que là j'invente, en fait c'est une image qui littéralement est biblique, que Jésus est l'époux, nous sommes son épouse promise, et puis on est dans une saison de préparation, on est dans cette période entre les fiançailles et le mariage. Et c'est une image que Dieu nous donne pour qu'on puisse saisir en fait la relation qu'il désire vivre avec nous. Et le passage qu'on a lu dans Luc marque comme justement ces fiançailles entre Jésus et son Église. Et le sacrifice a été payé à la croix, c'est fait. Son engagement envers nous ne changera pas. Et on est maintenant en fait dans la saison de préparation. Et un jour, Jésus reviendra pour rétablir le royaume de Dieu de manière définitive. Et il reviendra pour rétablir une fois pour toutes toute justice qui sera établie et faite. Il y aura toute larme qui sera essuyée, il y aura toute la création qui sera renouvelée, il y aura l'ennemi qui sera vaincu pour toujours. Là, je vous parle de quelque chose de grandiose. Et j'aimerais là juste faire une parenthèse. Si vous êtes là pour la première fois et vous découvrez tout ça, trop bien. C'est un sujet passionnant et moi je vous encourage vraiment de vous y pencher. Pour ceux qui ont peut-être grandi dans l'Église, cette parenthèse elle est pour vous. Je sais que ce sujet du retour de Jésus peut créer beaucoup d'appréhension. Je sais que ça peut créer beaucoup de questions. Je sais que ça peut aussi créer beaucoup de débats et de craintes et finalement on en a fait un sujet tabou. Et franchement, je ne veux pas minimiser tout ça parce que je sais qu'il y a eu beaucoup d'extrêmes, je sais qu'il y a eu beaucoup d'enseignements juste, ouais, qui n'étaient pas, comment on peut dire ça, qui étaient un peu mal amenés, mal construits, qui ont peut-être poussé en fait vraiment à ce qu'on rende ce sujet un sujet tabou, le retour de Jésus. Mais je vais le redire, si Jésus il est concerné par ça, qu'il en parle lors de la Sainte Cène, c'est que nous aussi, en tant qu'Église, on y est concernés. Et de là, je ne suis pas en train de dire le retour de Jésus doit être notre sujet primordial de toute notre vie, et toujours, toujours, toujours étudier ça, et puis dire non, moi je suis plutôt amélinariste, moi je suis plutôt blablabla. Tout ça, si vous ne connaissez pas ces termes, c'est peut-être tant mieux. Mais en fait, il y a une réalité profonde qu'on vit dans un royaume de Dieu en tant que chrétien et chrétienne où en fait Jésus va revenir et va établir la justice, va rétablir toute chose. Et en fait, on ne peut pas vivre autrement qu'à la lumière de ça. Et c'est cette table-là dont je vais vous parler ce soir, elle nous rappelle ça. Et on va en toucher encore quelques mots par la suite. Mais je vais le redire, si Jésus est concerné par cette table-là des noces, alors nous aussi, nous devons être concerné par cette table-là. Voilà, fin de petite parenthèse. Pour découvrir un peu plus sur cette table des noces, on va lire un passage qu'on trouve dans l'Apocalypse. Donc, l'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. C'est assez facile à trouver, contrairement à beaucoup d'autres livres. Vous allez littéralement un peu à la dernière page et puis vous trouverez l'Apocalypse. C'est un livre qu'on dit prophétique, qui est écrit par Jean. Ça veut dire que Je vais faire court encore une fois, hein, mais c'est un livre qui sera très très imagé. Il y aura pas mal de visions, de choses, de bêtes, de trucs que moi je trouve fascinant. Mais c'est vrai que des fois, à premier abord, c'est un livre qui peut faire un peu peur parce qu'on est là, je n'ai rien compris. Les trois premiers chapitres, ça va, c'est des lettres, c'est encore parler en humain. Et puis après, je ne comprends pas. Donc on va prendre un passage dans l'Apocalypse. Et puis encore une fois, comme dit, c'est un texte qui sera très imagé. Du coup, ce qui moi m'a beaucoup aidé avec des textes comme ça, c'est juste de fermer vos yeux et de, alors que je vais le lire, juste imaginer que vous êtes en train de regarder une scène de film. D'accord ? Ça, je pense qu'on est tous capables de faire. Ok. Vous avez vos yeux fermés ? C'est bon ? Je vois des yeux ouverts. Non, je rigole. Vous n'êtes pas obligés à part ça. Donc, Apocalypse 19, 5 à 9. Une voix sortit du trône et dit « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands !» Et j'entendis comme la voix d'une foule immense. Elle ressemblait au bruit de grosses eaux, au grondement de forts coups de tonnerre. Elle disait « Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin, éclatant, pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit alors, écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il ajouta, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Okay, vous pouvez rouvrir vos yeux. J'espère que vous ne vous êtes pas rendormis dans ces 10 secondes où j'ai lu. En fait, en lisant ce passage, on est comme plongé un peu dans une scène d'un festin des noces, c'est-à-dire d'un festin de mariage. Et l'auteur a parlé des festins de l'agneau. L'agneau, c'est en fait une image qu'on donne de Christ parce que c'est l'agneau sacrifié. Et l'agneau, en général, dans la culture à cette époque-là, c'était celui qui était sacrifié. Et du coup, c'est pour ça qu'on l'appelle l'agneau. En fait, c'est juste un terme fancy pour dire Jésus. Voilà. Donc, rappelez-vous de ce que j'ai dit tout à l'heure, les tables qui sont décrites dans la Bible vont nous révéler des vérités profondes sur Dieu, nous-mêmes et notre vie de disciples. Et mon cœur ce soir, c'est qu'on puisse apprendre à vivre à la lumière de ce que la table des noces nous révèle. Et c'est d'ailleurs mon deuxième point, du coup, pour ceux qui prennent des notes, c'est vivre à la lumière de la table des noces qui aura, attention, deux sous-points. Ça ne va pas être trop long, je promets. Donc voilà ce que ces quelques versets nous disent sur ce qui se passe au moment où on sera autour de cette table, parce que finalement, ce que je viens de vous lire, ça décrit ce moment-là. Ici, c'est mariage, ici, c'est fiançailles, si jamais. Comme ça, vous voyez, quand je viens ici, c'est mariage. Lors du mariage qui est décrit dans la Bible, donc de cette table des noces, voilà ce qui nous est dit. Il nous est dit que c'est Dieu qui établit son règne. Dieu invite les personnes qui seront présentes, que l'épouse est préparée, donc l'église est préparée, et que le mariage a lieu. C'est à peu près les quatre observations qu'on peut faire. On peut en faire bien d'autres, mais voilà ce que je vais ressortir un petit peu. Donc, en d'autres termes, la table des noces aura lieu. C'est une promesse, et cette promesse est en lien avec Dieu qui établit à jamais son règne. Et du coup, j'aimerais faire une petite observation pour ceux qui m'ont déjà entendu plusieurs fois. Vous savez que j'aime bien faire de petites observations comme ça. Il y a du coup deux acteurs, notamment dans ce passage-là. Il y a Dieu et l'épouse, donc l'Église. Et voyons un petit peu qui fait quoi dans cette histoire, d'accord ? Donc on a d'une part Dieu, lui, il établit le règne, il prépare le festin, il invite les invités, et en gros, il organise le mariage. On a de l'autre part, l'Église, qui elle se prépare. Alors moi, de mon humanité excellente, je trouve ça un peu disproportionné. Je trouve que Dieu a bien plus à faire que l'Église. Et du coup, quand j'y réfléchis un instant, je me dis, ok, n'étant pas Dieu, bien évidemment, je suis l'Église. Donc en fait, ce qui me concerne dans toute cette histoire, de manière très concrète, et puis ce qui me concerne moi directement, c'est ma préparation. C'est ma préparation en vue de cette table. Et hier, on a vécu une célébration incroyable lors du mariage de Lyle et Manon. Si vous les connaissez, envoyez-leur un petit message, qui sont deux personnes incroyables de notre communauté. Et il y avait une telle joie, il y avait des rires, des gens qui pleuraient parce que c'était tellement beau. Et puis, il y avait de la danse, il y avait même des pièces de théâtre. Mais au final, il y avait une explosion de joie. Mais pourquoi finalement il y avait ça? En fait, fondamentalement, c'est parce que la promesse qui avait été faite lors des fiançailles s'était concrétisée. Et c'est l'annonce d'en fait une vie d'union qui est à venir. Et les fiançailles qu'ils ont vécues il y a un an en arrière pointaient toujours vers ce moment autour de la table où en fait on allait célébrer finalement l'accomplissement de leur union. Et c'est un peu là, waouh, on y est enfin, ce jour tant attendu. Mais je pense qu'on peut s'accorder pour dire que quand Lyle et Manon se sont fiancés, ils sont pas juste restés les bras croisés en attendant le jour de leur mariage. Et les connaissant, ayant été major de table, je peux vous promettre qu'ils n'étaient pas en train de ils n'étaient pas les bras croisés en train d'attendre que le mariage arrivait. En fait, ils ont été très intentionnels dans leur préparation. Ils, tant sur le plan individuel que sur leur couple, mais en plus de ça, ils ont aussi cherché et préparé leur futur logement. Ils ont aussi organisé finalement toute la journée. En d'autres termes, la promesse que ce jour allait arriver les a poussés à se préparer consciencieusement. Et l'idée que je veux transmettre ici, c'est que notre vie de foi, elle fonctionne de la même façon. En fait, la promesse de la table des noces qui est à venir va nous pousser ici, dans notre vie, à se préparer pour. En fait, saisir qu'un jour, on se retrouvera autour de la table des noces et de réaliser finalement que c'est ce que Dieu désire qu'on y soit et qu'on fête avec lui cette union, c'est ce qui nous pousse à vouloir nous préparer et à comprendre comment est-ce qu'on va se préparer finalement. Et mon premier sous-point, c'est du coup ça, une vie de préparation. Parce que oui, le mariage, la préparation au mariage, comme pour Lyle et Manon, c'était une saison donnée. Maintenant, ils sont mariés, ils partent à Bali, je ne sais où. Et puis leur vie de couple commence. Mais la réalité, c'est qu'avec Dieu, alors qu'on sait que la table se prépare dans le royaume, en fait, notre vie devient une préparation. Toute notre vie est une préparation. En fait, il n'y a jamais un moment où on est là, « Waouh, c'est bon, j'ai passé la table !» À moins que Jésus revienne. Mais la réalité, c'est qu'en fait, notre vie est une préparation et il faut qu'on vive dans cette perspective-là. Mais maintenant, on pourrait se poser la question que j'imagine trotte autour de votre tête, rien dire. Bref, pas grave. Mais à quoi est-ce que ça ressemble de se préparer ? C'est une belle chose hein, de se dire, ok, on sait qu'il y a une table qui est à venir, je veux me préparer pour ça. Mais en fait, ça veut dire quoi en tant qu'église de se préparer? Parce que je pense qu'il y aurait autant de réponses que de personnes ici ce soir. Et en fin de compte, je pourrais vous faire encore 50 heures pour parler de ça, parce que j'aime parler. Aussi, c'est vrai, mais c'est aussi parce que c'est un sujet fascinant. Mais la réalité, c'est que moi, je vais vous donner quelque chose d'assez simple que dont la Bible nous parle. Concernant la préparation de l'Église. Et en fait, je vais reprendre les paroles de Jésus. Et je vais le dire comme ça. La préparation implique d'apprendre à vivre le premier commandement et la grande commission. Alors, j'ai appris que c'est un mot français, si jamais, commission, dans ce contexte-là. Donc, où il y a des gens qui l'appellent la grande mission. En fait, ces deux piliers nous sont donnés par Jésus lui-même dans l'Évangile. Et puis, je vais vous lire les passages. Je ne vais pas m'attarder trop là-dessus ce soir, mais j'avais quand même envie de donner ces clés. En fait, ça ressemble à quoi de se préparer? Vers quoi est-ce que je vais? Et puis, il y a du coup les deux passages clés. Le premier commandement, qui est selon Matthieu 22, 37 à 39, résume littéralement l'essence de notre vie de disciple en préparation et en vue de cette table des noces. Et il dit la chose suivante. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi est-ce que je cite les passages et les paroles notamment de Jésus dans ce contexte-là? Jésus, lui, vivait toujours avec la perspective de la table des noces. Il n'a jamais perdu de vue et il n'a jamais été pas au courant de cette table, d'accord? Donc lui, omniscient qu'il est, savait que cette table venait, et voilà ce qu'il dit en fait à ses disciples, des plus grands commandements finalement pour, en fait, je sais qu'ils vont arriver là-bas, ils vont arriver à la table des noces, mais voilà ce que je vais leur donner aujourd'hui, concrètement, pour se préparer. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tends à vivre cette réalité-là. Et on peut poursuivre ça avec la grande mission, la grande commission, ça me fait toujours rire, que Jésus donne à ses disciples. Bref, c'est Matthieu 28, je vais dire grande mission pour ma propre santé mentale. Matthieu 28, 19, 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En fait, c'est une mission qui est assez claire pour toi et moi. Faire des disciples, baptiser et enseigner tout ce que Jésus a enseigné. Pour enseigner tout ce que Jésus a enseigné, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'il enseigne. Donc en fait, on devient des apprentis simplement de Jésus pour faire court. Et c'est notre appel en tant qu'Église, notre responsabilité dans cette préparation-là. Aimer Dieu de tout son cœur. Et je sais que ce n'est pas quelque chose, encore une fois, une destination à atteindre. C'est quelque chose à tendre vers une croissance, une maturité. Donc finalement, aimer Dieu, aimer les autres, tout en partageant la bonne nouvelle et faisant des disciples, voilà ce que signifie réellement vivre à la lumière de la table des noces. C'est vivre dans une relation profonde avec Dieu, être des agents actifs dans la mission qu'il nous a confiée. Et en fait, c'est un engagement quotidien envers l'amour et le service. En fait, c'est une vie qui est imprégnée du cœur de Dieu. Donc, en fait, quand je vous parle de se préparer en tant qu'Église et finalement en tant qu'individu, mais aussi nous en tant que communauté, en fait, c'est un engagement à vivre les commandements de Jésus au quotidien. Et c'est simplement à être les mains et les pieds de l'amour de Dieu dans le monde qui nous entoure. Et au final, c'est une vie de consécration, et c'est ça mon dernier point pour ce soir, une vie de consécration. En fait, pour introduire ce dernier point, je vais juste relire quelques versets du passage qu'on a lu plus tôt dans l'Apocalypse, et on va lire les versets 7 à 8. Ils disent la chose suivante. « Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau. » C'est là le moment important à surligner. Et son épouse s'est préparée. Il a été donné, de s'habiller d'un fin lin éclatant, pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. En fait, au cœur de ce que Jean est en train d'écrire, on voit du coup l'Église qui s'est préparée. Donc, je l'ai dit avant, hein, on est dans une vie de préparation. Mais la réalité, c'est que l'Église, ou nous, on peut le traduire aussi par toi et moi, on n'est pas venu à la table des noces par hasard. On n'est pas on n'est pas arrivé à la porte en se disant « Oh, bah, c'est un mariage, c'est chouette, vas-y, on y va ». On a été en fait invité à cette table. Ce n'est pas par hasard qu'on y est. Mais en fait, c'est comme si l'Église s'est consacrée. Elle s'est revêtue d'un fin là, qui est éclatant, qui est pur. Les habits que l'épouse elle porte, en fait, de un, elles sont visibles. Ils sont éclatants. Le fin là est éclatant. C'est quelque chose qui est visible. Et en plus, il lui a été donné de s'habiller de ce fin là. C'est différent de tous les autres fins là que nous on peut faire, que nous on peut façonner. C'est quelque chose qui lui a été donné. Et c'est une marque de consécration à Dieu visible qui provient d'un style de vie différent. En fait, ce fin lin, c'est la marque d'une consécration envers Dieu. Et c'est un engagement profond envers lui. C'est comme une mariée qui se prépare avec une attention un peu minutieuse pour son grand jour. Elle se garde finalement pour son bien-aimé, ne laissant aucune place à aucun prétendant. Et en fait, il en est de même pour nous aujourd'hui. Saisir la réalité de la table de noces, c'est finalement recevoir un appel à la consécration et à la dévotion à Dieu. C'est choisir Dieu parmi tous les autres, tout comme le marié et la mariée vont choisir l'un et l'autre parmi tous les autres choix qu'il y a. Mais cet appel à la consécration, et je pense qu'on peut se le dire, elle n'est pas facile. Et je vais le dire comme ça, les autres prétendants ne sont pas loin. Et en fait, on est entouré par d'autres prétendants. Et c'est parfois difficile de rester rattaché à Dieu dans ces moments où en fait les autres prétendants vont commencer à venir guetter. Dire, ouais, mais tu penses pas qu'avec moi ça va être plus cool la vie? Non, parce que moi j'ai succès financier avec moi. Hein. Donc allez, on y va. Et puis là, j'ai cité succès financier. Pas que ça n'existe pas dans le royaume de Dieu, vraiment pas. Mais si ça devient notre idole, c'est ça que je suis en train de parler. Hein. C'est une question de cœur finalement. Et en fait, la réalité, c'est que alors qu'on est dans une saison de préparation, ça veut dire qu'on n'y est pas encore à la table. Et en fait, il y aura des prétendants. Et Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, il exprime quelque chose de fondamental que je crois qu'on doit saisir en tant que disciple. Il parle de la jalousie sainte de Dieu pour son épouse, donc pour nous. Et il parle aussi d'un danger, et puis je vais juste vous lire le passage, comme ça ce sera plus simple. Il dit dans 2 Corinthiens 11, 2 et 3, « En effet, je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu, c'est Paul qui parle, hein. Je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Cependant, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, donc ça revient à Genèse, petite parenthèse, où en fait Adam et Ève sont créés par Dieu, vivent en unité parfaite, en union parfaite avec Dieu. Et là, il y a Ève qui, il y avait un arbre qu'il ne fallait pas toucher. Et puis, il y a un serpent qui est venu, qui a, c'est là où il parle, il y avait une ruse, il avait une ruse particulière qui a fait que Ève prenne de la pomme et finalement mange de cette pomme et on connaît ça aujourd'hui sous le nom de la chute. Je vous laisserai aller lire dans Genèse 1 à 3 notamment. Enfin 2, parce que 1 non, 2 non plus d'ailleurs. bref, donc voilà. Cependant, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, j'ai peur que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité et de la pureté vis-à-vis de Christ. Je vais utiliser des termes un peu durs maintenant, donc... Le but, ce n'est pas d'offenser, ce n'est pas de créer des tensions, mais c'est en fait de juste rendre conscient de cette réalité-là. C'est que la réalité, c'est qu'on a la capacité de tromper Dieu. Et je sais que ça peut sembler dur, mais en fait, c'est essentiel de reconnaître qu'on peut le tromper dans cette période de fiançailles. Et la réalité, comme ça, on est tous déjà à plus, c'est qu'on le fait tous, en fait. Donc voilà. Je dédramatise la chose. En fait, on le fait tous parce qu'on est humain. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, Jésus ne revient pas en arrière sur son alliance qu'il a faite envers nous. Et ça, franchement, c'est une très bonne nouvelle, je peux vous le dire, parce que... Dieu merci qu'il est là. C'est tout ce que je veux dire là-dessus. Jamais, en fait, il ne viendra vers toi avec un contrat de divorce en disant, tu sais quoi, mauvaise idée, en fait, que j'ai eue de te donner cette coupe de vin. Terrible. Je te donne un contrat de divorce, hein. On va annuler, effacer cette table-là des noces-là. Pouf, c'est trop compliqué avec toi. Jamais il va faire ça. Jamais, jamais, jamais. Et ça, il faut l'entendre. Parce que nous, on peut venir vers lui en disant, tu sais quoi, toi, ta table-là, elle ne m'intéresse pas. Tu m'as invité, je sais, mais je ne vais pas venir. Et Dieu, dans toute sa grandeur et honnêtement, tout son mystère, va dire, ok. Brisé, mais ok. Il ne va pas nous retenir, il ne va pas nous garder. Non, tu sais quoi, je te garde avec moi, je te tire jusqu'à la top parce que tu seras là. Honnêtement, si j'étais Dieu, je ferais ça. Hein. Mais Dieu merci que je ne suis pas Dieu. Voilà. Fin du message. Non, je rigole. Mais pour ça, c'est important qu'on reconnaisse justement que okay, Dieu ne revient pas en arrière sur son alliance. Et ça, c'est hyper important qu'on comprenne ça, alors qu'en fait, dans cette période de fiançailles, on va se tromper, on va en fait lui marcher dessus, on va dire non, en fait, Dieu, je ne te veux pas, je préfère ça. En fait, c'est juste une réalité de notre vie de préparation, d'accord ? Mais la réalité qui est magnifique là-dedans, c'est qu'en fait, du coup, c'est tellement puissant de reconnaître que la repentance a sa place là-dedans, qu'en fait, elle est la porte qui va nous amener à la simplicité, et peut-être nous ramener à ce que Paul dit, la simplicité et la pureté vis-à-vis de Christ. Parce que lui ne change pas vis-à-vis de nous, mais la repentance permettra à ce que Dieu vienne transformer notre cœur vis-à-vis de lui. Savoir qu'un jour, on se retrouvera autour de cette table des noces, c'est en fait une promesse qui vient profondément impacter nos cœurs et notre quotidien quand on la saisit. Parce que finalement, Dieu qui nous donne cette image de la table des noces, elle est là pour une raison. Et en tant que disciple, ma prière, c'est qu'on puisse saisir la profondeur de cette table à laquelle Dieu nous invite et qu'elle produise en nous aujourd'hui un élan de repentance et un élan de renouvellement de notre consécration envers Dieu. Et en fait, pourquoi j'aime parler de la table des noces ? Alors, quand on a préparé avec Raph, je peux le dire, quand on a préparé ensemble, je sais, oui, il ne sait même pas ce que je veux dire. En fait, quand on a préparé cette série, On a parlé des tables et moi j'ai dit vas-y, il faut qu'on parle de la dernière table, de la table de noces. Et lui, il est là tellement, c'est pas moi qui prêche. Je suis là, ok. Et en vrai, je comprends trop, j'ai galéré hein, d'essayer de rendre concis, court et clair ce que je voulais dire. Mais en fait, la réalité de cette table de noces, elle est tellement profonde parce que c'est un appel à la consécration, c'est un appel à la reconsécration, mais c'est surtout un appel à la repentance. Et puis, la réalité, c'est que c'est un appel à nous détourner des tromperies du monde. C'est un appel à nous détourner de ces prétendants qui sont autour de nous. Et de revenir à ce que Paul dit, de revenir à la simplicité et à la pureté vis-à-vis de Christ. Et notre prière en tant qu'Église, c'est que alors que là, on va vivre un temps de sainte cène et un temps de repentance, c'est que chaque fois qu'on prenne la sainte cène, chaque fois qu'on prend cette sainte cène ensemble en tant que communauté, ça soit finalement un moment sacré de renouvellement et de reconsécration et de repentance pour qu'on puisse finalement vivre cette simplicité et cette pureté vis-à-vis de Christ qui deviendra en fait un cadeau incroyable pour le monde autour de toi. C'est ça qui va transformer les gens autour de toi. Finalement, tes paroles auront un impact, oui, mais ta vie va parler bien plus. Et donc cette consécration et cette dévotion à Dieu de se détourner des prétendants de ce monde va être bien plus importante et Jésus en a bien plus à faire à ça que comment bien t'arrives à expliquer l'évangile. Parce que si ta vie l'explique, alors les paroles vont couler. Et je prie que chaque sainte cène ici à Home, le soir, autour de cette table, soit comme le signe d'un cœur qui se reconsacre, qui se dévoue à nouveau à Dieu. En vue de cette table des noces, parce qu'on sait qu'un jour, on sera de nouveau avec lui. On sait qu'un jour, il y a une union, il y a une fête qui va se passer. Et vous savez ce qui est magnifique et ce que j'aime dans cette image-là qu'on a littéralement devant moi, vous, autour de vous, c'est qu'en fait, chacun et chacune d'entre vous, vous avez une place à cette table. Chacun et chacune d'entre vous, vous avez une place à la table communautaire dont Sabine a parlé. Vous avez une place autour de la table de la Sainte Cène avec Jésus. Et finalement, vous avez aussi une place qui vous est attribuée lors de la table des noces. Et c'est à vous de savoir est-ce que je veux dire oui ou non à être invité autour de cette table.
Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglisome.com.